Banco Pays de Banque Atlantique. L'offre Diaspora pour investir au pays vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous nous suivez à la radio et en vidéo sur la chaîne YouTube de RFI. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Dans 30 minutes, nous parlerons émigration irrégulière après le verdict de la justice sénégalaise. Un verdict inédit par sa sévérité. 7 ans de prison ferme pour un passeur de migrants responsable de la mort de plusieurs dizaines de personnes dans un naufrage en septembre dernier. Cette tragédie, rappelez-vous, avait endeuillé la ville de Mbour, d'où était partie la pirogue. Un drame qui avait ému tout le pays. Cette condamnation sera-t-elle dissuasive? Voilà la question que nous vous posons ce matin. Cette condamnation permettra-t-elle de décourager les trafiquants, mais aussi les jeunes, à ne plus risquer leur vie pour tenter de rejoindre l'archipel espagnol des Canaries? Vos réactions, vos témoignages nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires également sur nos réseaux sociaux. Je lis à l'instant le message de Mamadou qui est à Mbour, là même où il y a eu ce deuil. Il nous dit « J'habite Mbour, sur la ville côtière, et malgré cette condamnation, je peux vous dire que les jeunes continuent de prendre les pirogues ». Voilà ce que nous dit cet auditeur. On en parle donc plus longuement tout à l'heure. Et pour commencer, comme tous les matins, ce sont vos questions à la rédaction. Et justement, des questions sur ce procès, le procès de ce passeur de migrants. Bonjour Alpha.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Dakar, dans la capitale sénégalaise.
Ouais.
Nous vous écoutons.
Ouais. Alors, pourquoi la justice sénégalaise a-t-elle décidé de prononcer une peine plus lourde que celle requise par le procureur? C'est ma première question.
Le procureur, je le rappelle, avait requis 2 ans de prison ferme. Bonjour Gwendal Lavina.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Correspondant de RFI à Dakar, expliquez-nous Gwendal, pourquoi le juge a-t-il été plus sévère que le procureur?
Eh bien, c'est la nature de l'affaire et les éléments de la procédure qui ont motivé ce juge à prononcer une telle peine. Pour rappeler rapidement les faits, le 8 septembre dernier, une pirogue part de Mbour direction l'Espagne avec jusqu'à 150 personnes à bord selon certains témoignages. Peu après le départ, elle se renverse provoquant la mort d'au moins 29 personnes. C'est le dernier bilan officiel et des dizaines de disparus qui n'ont toujours pas été retrouvés. Comme c'est le cas à chaque fois dans de telles affaires, une enquête est ouverte. Mais dès le lendemain de la catastrophe, le 9 septembre, un homme se présente au commissariat de Sali en expliquant être l'organisateur de la traversée. Il s'appelle Chersal, un patron pêcheur très connu à Mbour.
Et quels éléments ont donc motivé le juge ?
Alors, il y a 5 chefs d'inculpation qui ont été retenus par le parquet contre Chersal et Mohamedou Tio, l'homme qui lui a fourni le carburant pour la pirogue. Trafic de migrants, homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, blanchiment de capitaux et complicité. Alors, vous le disiez, le procureur avait requis 2 ans de prison ferme contre les deux hommes, en considérant notamment que Chersal avait reconnu et regretté les faits. Mais le juge a été bien plus sévère contre le convoyeur, comme on ne l'a jamais vu dans une telle affaire d'ailleurs, puisqu'il est de 7 ans de prison ferme. Les faits sont extrêmement graves, a déclaré le juge. Au-delà des victimes très nombreuses, c'est la participation active à la migration clandestine qui est punie, d'autant qu'en 2019, ce même Chersal avait déjà réussi à conduire des migrants jusqu'en Espagne. Le trafic de migrants au Sénégal est un délit puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende allant de 1 million à 5 millions de francs CFA. Le juge a donc choisi de sévir et de condamner quasiment au maximum de la peine possible.
Voilà. Une peine donc pour l'exemple. D'ailleurs, plusieurs associations de soutien aux migrants saluent ce verdict inédit donc par sa sévérité. Et ces associations espèrent que cela dissuadera de futurs passeurs. Vous avez d'autres questions, Alpha ?
Oui, mon cher Juan. Les familles des victimes avaient pourtant retiré leur plainte. Pourquoi la justice n'en a pas tenu compte ?
Ah, bonne question, effectivement. Gwendal Lavina, les familles des victimes, qui en grande majorité, il faut le préciser, sont proches de Chersal, elles lui ont accordé leur pardon, elles ont retiré la plainte et finalement le juge l'a ignorée.
Oui, le juge n'en a pas tenu compte car il ne s'arrête pas simplement à d'éventuelles plaintes déposées par les familles pour prendre sa décision. D'abord, les enquêteurs ont recueilli des preuves, des témoignages, des aveux également. Le procureur a ensuite déterminé ce qui lui semblait être la peine la plus appropriée. Et à la fin, le juge, en regardant tout ça, en examinant tout ça, prend sa décision en toute indépendance.
Ouais, une indépendance vis-à-vis de tout type de pression, Gwendal.
Oui, on parle souvent de l'indépendance par rapport aux politiques, mais il peut y en avoir par rapport à des pressions exercées par des personnes pour servir leur intérêt dans une affaire. Et qu'on le veuille ou non, un retrait de plainte en pleine procédure peut être vu comme une volonté d'influer sur le cours de la justice. Enfin, le juge l'a dit lui-même, malgré le retrait des plaintes, les faits restaient d'une gravité exceptionnelle.
Vous avez une dernière question, il me semble, Alpha.
Oui. Peut-on réellement juger quelqu'un sans qu'une plainte soit déposée contre lui?
Gwendal Lavina.
Bonne question. C'est vrai que les familles ayant perdu un ou des proches dans ce chavirement pensaient que pardonner le convoyeur comme elles l'ont fait et retirer leur plainte aboutirait à la fin de la procédure. Un classement sans suite en quelque sorte puisqu'il s'agit d'un délit et non d'un crime. Mais il faut souligner plusieurs choses déjà. Une fois que la procédure est lancée, elle suit son cours jusqu'au jugement. Et surtout, on est dans une affaire où il y a eu des morts dans le contexte que l'on connaît malheureusement trop bien au Sénégal, celui de l'immigration clandestine. Et donc, l'État est également parti dans cette affaire représentée par le procureur de la République. Et cet État sénégalais, eh bien, il réclame aussi justice pour les citoyens qui sont décédés et une condamnation contre les personnes qui alimentent le trafic de migrants. Ce qui explique que même après le retrait des plaintes des familles, l'affaire ait suivi son cours et qu'un jugement ait été rendu ce lundi.
Et nous en parlerons dans 20 minutes maintenant. Vous avez la parole, appelez-nous, exprimez-vous. 33 9 693 693 70. Alva, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Non, mais franchement, je suis fier des journalistes de RFI.
Oh, merci de vos encouragements.
Soyez renseignés, informés. Juste.
Remerciez merci surtout Gwendal Lavina, qui doit être fier de vos compliments. Bon, bonne journée à tous les deux à Dakar, où on nous écoute sur les 92 FM. Il est 8h17 à Dakar et en temps universel, 10h17 à Paris. On repasse au standard. Bonjour Marius Trésor.
Oui, bonjour Monsieur Wan, comment allez-vous?
Et vous-même?
Oui, ça va bien, merci.
Moi aussi, ça va très très bien. Vous avez des questions sur le Burkina Faso?
Oui, j'ai des questions sur le Burkina Faso, mais permettez-moi de dire bonjour à Monsieur Adel Bakawan, le spécialiste qui est passé le lundi dernier
oui.
À l'émission. Voilà,
Adel Bakawan qui nous a accompagnés tout au long de l'émission spéciale lundi,
voilà,
que nous avons consacrée.
Ce monsieur m'a épaté ce jour-là, ouais. Par ses réponses, par ses explications. En tout cas, il a apporté un plus à ma connaissance
sur
la région du Moyen-Orient.
Tant mieux, on est là pour ça, pour vous permettre de mieux comprendre l'actualité tous les matins. Quelles sont vos questions sur le Burkina Faso, Marius Trésor?
Ok, mes questions sur le Burkina Faso. Le frère du roi de Moussi est rentré sain et sauf après un mois d'incarcération. Monsieur Wang, voici mes questions. Que sait-on aujourd'hui des raisons de son arrestation? Et j'aimerais savoir aussi, j'aimerais comprendre quels sont les liens entre la famille royale et le pouvoir en place.
Oui, Abdulaziz Congo avait été arrêté le 30 avril. Bonjour Frédéric Gara.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Avant de répondre à Marius Trésor, rappelez-nous les faits.
Eh bien, le 30 avril dernier, donc Abdulaziz Congo, qui est donc l'un des frères du Moronaba, a été arrêté effectivement dans les rues de Ouagadougou par des hommes en civil, des individus, comme c'est souvent le cas malheureusement au Burkina Faso, qui se sont présentés à lui comme étant des représentants des forces de sécurité. Ils l'ont embarqué, incarcéré pendant 37 jours, avant finalement de libérer. On n'a aucun motif, en tout cas connu, aucun mobile apparent pour cette arrestation.
Aujourd'hui encore, on n'a pas davantage d'informations sur les raisons de son arrestation.
Difficile à savoir, c'est malheureusement souvent le cas encore une fois au Burkina Faso, où on arrête les gens pour des raisons diverses. Alors il y a des hypothèses qui existent. Il y en a au moins deux. La première, c'est que Abdulaziz Congo, il y a environ au mois de septembre dernier, avait avec un autre un homme politique, Haruna Diko, produit une interview dans le Faso.net, et dans cette interview il revenait de manière un peu à peine critique, mais en tout cas un peu incriminante, sur le pouvoir en place, en rappelant quels étaient les devoirs de ce pouvoir, et notamment le respect de la Constitution et des lois du pays, des préceptes qui sont un peu mis à mal en ce moment par le pouvoir de Ibrahim Traoré. L'autre hypothèse, qui est peut-être plus vraisemblable, c'est que dans une période de turbulence au sein de l'armée burkinabé, et après des successions de fiascos militaires au sein de l'armée face aux groupes armés terroristes, eh bien, il y a quelques tensions au sein de cette armée et le Moro Naba aurait été sollicité par le pouvoir en place, par Ibrahim Traoré, pour tenter de ramener un peu de sérénité, de dialogue, de médiation au sein de cette armée. Et là encore, le Moro Naba aurait refusé cette sollicitation. Et du coup, pour faire pression sur le roi Nemossi, eh bien, l'un de ses frères aurait été arrêté pour qu'il y ait une tentative de médiation au sein de l'armée.
Ouais, Moro Naba, Bonro II, le roi Nemossi.
Bonro II. Alors, c'est pas le roi Nemossi, c'est l'un des rois. C'est l'un des rois Nemossi, effectivement. Bonne remarque, monsieur Juan Gomez, parce que on a eu pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux suite à ces différents articles où on nous expliquait qu'il n'y avait pas un roi Nemossi au Burkina Faso, mais plusieurs, et c'est vrai. Ils sont au nombre de 5. Il y a celui de Waiguya, celui de Boussouma, celui de Tenko Dogo, de Fada Ngourma, et donc de Ouagadougou. 5 rois pour autant de royaumes au Burkina Faso, et 6 sur RFI, on l'a désigné le Moro Naba de Ouaga comme étant le roi Nemossi, c'est vrai, de manière un peu abusive, c'est parce que de fait, il est souvent l'un des référents, l'un des recours dans la culture Mossi et surtout dans la vie politique qui a été très agitée ces dernières années dans la capitale. C'est par exemple lui qui a été ces dernières années sollicité dans une succession d'événements comme la chute de Blaise Compaoré en novembre 2014 ou encore un peu après, lorsqu'il y a eu une tentative de putsch du RSP en 2015, le Moro Naba sollicité pour amener encore là une fois un peu de sérénité et d'union dans un pays qui est secoué par des événements politiques cruciaux.
Ouais, Marius Trésor, voulant en savoir un peu plus sur les relations entre la famille royale et les militaires au pouvoir. Est-ce que c'est tendu?
Non, c'est un peu tendu, vous l'aurez vite compris. En tout cas, c'est pas très serein. Le pouvoir du Moro Naba est en théorie assez nul d'un point de vue politique, mais cela reste une autorité morale primordiale dans le pays, une figure éminente dans la culture Mossi et de ce fait très respectée par l'ensemble de la population. Une figure respectée, sauf quand certains militaires au pouvoir contestent cette figure, comme ce fut le cas par le passé, par un certain Thomas Sankara dans les années 80, le capitaine Sankara, qui à l'époque de sa présidence avait fortement secoué les bases et les préceptes liés à la chefferie traditionnelle et celle des autorités coutumières, en arguant que cela relevait d'un certain passéisme fait cette royauté, un passéisme féodal, des royautés qui étaient en totale contradiction avec la révolution sankariste. On peut supposer, Rohan, qu'Ibrahim Traoré, qui se revendique, qui se targue d'être un héritier spirituel de Sankara, eh bien, pense la même chose, sauf lorsqu'il sollicite le Moro Naba, eh bien, pour lui rendre service et pour calmer la grogne au sein de son armée.
Voilà Marius Trésor pour les explications de Frédéric Gara. Êtes-vous comblé?
Oui, je suis satisfait. Je profite pour dire bonjour à nos braves techniciens.
Ah, les braves techniciens, les techniciens sans qui les micros ne fonctionneraient pas et on ne pourrait pas dialoguer avec vous tous les matins. Merci à vous, Marius Trésor. À très vite, Frédéric Gara, journaliste au service Afrique de RFI. Des questions maintenant sur la guerre Israël-Iran, après cette nuit consécutive de frappes de part et d'autre. Bonjour Dimitri.
Bonjour Siron, bonjour.
On va tendre l'oreille, vous êtes à Washington.
Oui, justement, après 7 jours de guerre, il y a eu beaucoup de frappes.
Oh là là, on entend très 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 mal. C'est souvent le cas avec les auditeurs qui nous contactent des États-Unis. Je ne sais pas ce qui se passe aux États-Unis, mais les liaisons téléphoniques sont très très mauvaises. Une dernière tentative, on essaye, sinon je me fais votre porte-parole, Dimitri. Vous vouliez savoir?
Oui, alors après 7 jours de frappes, il y a eu l'initiative iranienne. J'aimerais savoir à quel point on en est pour l'évaluation des dommages sur le programme iranien.
L'impact des frappes sur les infrastructures nucléaires, si j'ai bien compris. Firouzeh Navahandi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles. Vous publiez aux éditions La pensée et les hommes, femmes iraniennes, évolution ou révolution, comment survivre sous un régime islamique. Dimitri le disait à l'instant, 7 jours de frappe continue. Israël cible plusieurs sites d'enrichissement d'uranium. Quel est l'impact de ces frappes sur le nucléaire iranien?
Voilà, peut-être deux remarques avant de parler des impacts. Dire d'abord que le but de l'attaque israélienne sur l'Iran était de détruire les sites nucléaires ou pour tout le moins le retarder. Deuxième remarque, détruire totalement les sites ne peut pas se faire sans l'aide des États-Unis qui sont les seuls à avoir les avions et le matériel pour arriver à bout de sites nucléaires. Oui. Cela étant dit...
Parce qu'il faut juste préciser, Firouzé, a avant dit, c'est que les salles où se trouvent les centrifugeuses sont à plusieurs dizaines de mètres sous terre.
Oui, tout à fait. D'une part, ils sont enfouis sous terre et parfois sous des montagnes. Deuxièmement, ils sont dispersés sur le territoire iranien. Donc, cela implique différentes manœuvres. Néanmoins, il y a eu quand même des attaques qui ont mené à une destruction partielle en surface, en tout cas, ou des destructions qui peuvent nuire à l'avancement de ces sites nucléaires. Alors, il y a Natanz, qui est celui dont on parle le plus.
Qui est le plus grand site iranien d'enrichissement d'uranium.
Tout à fait. Donc là, il y a eu des destructions de bâtiments, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que l'on a endommagé l'installation électrique qui alimentait ce site nucléaire. Donc, il y a la destruction totale de l'alimentation électrique externe. Mmh. Après, il y a à Ispahan des bâtiments qui sont endommagés, quatre bâtiments, autant que je sache, où c'était des sites où il y avait la conversion d'uranium. Hier soir, je crois qu'il y a encore un site à Arak, un réacteur à eau lourde qui a été touché.
Ça a été annoncé ce matin par l'armée israélienne.
Voilà, voilà, voilà. Et puis, près de Téhéran également, deux sites de fabrication de centrifuges qui ont été détruits. Alors, la question se pose pour Fordow, qui est l'un des objectifs finaux de ces attaques, mais il n'y a pour le moment pas de dommages qui sont constatés. Oui. Cela étant dit, pour terminer avec ma réponse, il faut dire qu'à côté de ces destructions, il y a tous les risques qui peuvent être mis en évidence parce que finalement, on a des risques de contamination.
De radiation.
Et de radiation, bien évidemment. Donc, il y a des destructions superficielles ou partielles, mais pas le but atteint comme... le disaient les autorités.
En tout cas, pour l'instant, c'est clair que le cœur du programme nucléaire iranien est hors de portée de l'armée israélienne. Il faudra pour cela, pour atteindre cet objectif, cette fameuse bombe que seuls les Américains disposent. Willy, on vous écoute, vous avez des questions.
Bonjour, Juan Gomez.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, allez-y, il nous reste deux petites minutes.
Ok, je voulais savoir, ok. Donald Trump a exigé qu'il y ait capitulation de la part de l'Iran. Alors, je voudrais savoir si les États-Unis finiront par entrer en guerre contre l'Iran.
Les spéculations s'intensifient effectivement. Il faut cette fameuse bombe américaine dont je parlais à l'instant. Donald Trump va-t-il entrer en guerre ? Firouzena Avandi.
C'est la question à millions de dollars, puisque le monde entier attend de voir ce que sera la décision finale du président Trump. Il y a eu un conseil de sécurité encore hier soir. D'après les annonces officielles, toutes les options ont été présentées à Donald Trump, mais c'est finalement lui qui va décider de ce qu'il fera. Il a ponctué dans plusieurs réponses à des journalistes. Donc, oui. Il peut intervenir militairement.
Je vais peut-être le faire, peut-être pas. Voilà ce qu'il a déclaré hier devant la presse.
Donc, et
il a même ajouté,
fait...
personne ne sait ce que je vais faire. Peut-être lui-même ne le sait pas, d'ailleurs.
Mais exactement, c'est du Trump tout craché, si j'ose dire.
À suivre donc. En tout cas, merci d'avoir pris quelques minutes ce matin, Firouzen à Avandi, pour répondre à quelques-unes des nombreuses questions que nous recevons tous les jours sur cette guerre Israël-Iran. Professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles, et vos explications sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. Restez avec nous, RFI vous informe dans 15 secondes maintenant, la dernière édition d'Afrique Matin. Et tout de suite après, nous parlerons émigration irrégulière après un verdict inédit de la justice sénégalaise.